Radio Kapi.
Il est midi pile à Kinshasa, 13h à Kalemie, dans le Tanganyika. Voici les titres de ce journal. Au Congo central, tous les policiers qui étaient en poste à Kimpese dans les territoires de Songololo sont mutés. C'est l'une des décisions prises par les autorités provinciales en réponse aux revendications des manifestants qui accusaient les policiers d'être de connivence avec les criminels. La République démocratique du Congo joue la Guinée demain vendredi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Une rencontre qui déchaîne les passions chez les Louchois, dont la plupart croient en la victoire des Léopards, mais d'autres jouent à la prudence. L'invité de ce journal est le député national Gary Sakata. Ce professeur de droit parle de l'incompatibilité des fonctions occupées actuellement par les nouveaux députés élus après l'installation de la nouvelle Assemblée nationale, et ce, alors que le contentieux électoral n'est pas encore vidé au niveau de la Cour constitutionnelle. Et tout d'abord, cette information qui vient de nous parvenir, 7 personnes sont mortes, d'autres blessées, 5 écoles primaires écroulées et plusieurs centaines d'hectares des champs détruits. Situation à la base également de plus de 18 000 sinistrés. C'est le bilan des pluies torrentielles qui se sont abattues dans la province du Tanganyika sous la période de novembre 2023 à la première quinzaine de janvier 2024, indiquent des sources humanitaires. Les aires de santé les plus touchées sont notamment Kataki, Katibili, Kifungo et Kawama. Les mêmes sources rapportent que plusieurs personnes sont sans abri. Direction Congo central, pour commencer ce journal, tous les policiers qui étaient en poste à Kimpese dans les territoires de Songololo sont mutés. C'est l'une des décisions prises par les autorités provinciales en réponse aux revendications des manifestants. Pour rappel, la cité de Kimpese est secouée depuis le début de la semaine par des manifestations de la population. 4 personnes, dont 3 policiers, ont même trouvé la mort au cours de dites manifestations. La population dénonce l'insécurité qui secoue Kimpese en accusant les policiers d'être de connivence avec les criminels. Les points avec Nana Plurich Mambou.
La décision de muter tous les effectifs des policiers commis à Kimpese a été prise à l'issue de la réunion du comité provincial de sécurité élargi au comité local de sécurité, les cadres de concertation de la société civile du Congo central, les confessions religieuses, la notabilité et les structures des jeunes présidées à Kimpese par les gouverneurs des provinces. Cette mesure concerne 67 policiers, y compris les cadres qui composaient l'état-major de la police de Kimpese. Ils sont arrivés à Matadi la nuit dernière en attendant un reconditionnement avant leur affectation dans d'autres parties de la province. En attendant, l'état-major commandement de la police a installé provisoirement un nouveau commandant et de nouveaux éléments, affirme le commissaire provincial de la police. Israël Kantoubakoulou dit avoir reçu un renfort des éléments de la Légion nationale d'intervention, LENI, pour reprendre le contrôle de la situation sécuritaire et faire respecter le couvre-feu instauré sur place à Kimpese depuis le mardi par le ministre provincial de l'Intérieur. Signalons que le gouverneur qui a séjourné à Kimpese pour appuyer les efforts du rétablissement de l'ordre public après 2 jours de manifestation a visité les 24 blessés et les familles des 7 victimes de ces échauffourées. Matadi, Nana Plurich Mambou, Radio Okapi.
Et pendant ce temps, au nord Kivu, dans le territoire de Beni, au moins 23 personnes ont été tuées en l'espace de 4 jours dans différentes attaques attribuées aux rebelles des ADF dans le groupement de Babila, Bakaiko. Ce bilan est livré par la société civile de la localité de Mamové, qui dénonce la recrudescence des attaques des ADF depuis quelques jours dans la région. Kinos Katuo, son président, déplore le fait que les alertes sécuritaires de cette structure citoyenne ne soient pas toujours prises en compte par les FRDC. Il condamne également la collaboration de certains civils avec les rebelles des ADF. Kinos Katuo a été joint par André Kitenge.
Le bilan des attaques des ADF NAL du 27 janvier au 31 janvier 2024 dans 4 agglomérations de la localité de Babila Bakaiku est de 23 personnes tuées du samedi au mardi. Or, l'armée était bien informée et était en mouvement pour la poursuite de cet ennemi. Alors, on se demande pourquoi l'armée n'a jamais mis en considération nos alertes. Pourquoi l'armée n'a jamais attaqué l'ADF, seulement laissé l'ADF se décharger si la paisible population à ciel ouvert. Pourquoi l'armée permet à l'ADF à fréquenter plusieurs agglomérations au moment qu'il est bien informé sans intervenir? C'est inacceptable. Un territoire qui a tant de généraux, tas de colonels et autres officiers être déstabilisés par un groupe d'hommes, enfants et femmes pendant plus de 10 ans, sans avoir maîtrisé la situation. Nous condamnons aussi les civils qui continuent à renforcer et à ravitailler ce groupe ADF.
Tous nos efforts pour avoir la réaction de l'armée se sont avérés vains. Par ailleurs, en Ituri, 4 personnes ont été tuées hier mercredi par un groupe de présumés rebelles ADF dans le village Pikidi, en souvenir de Babila Bakwanza. Ces hommes armés étaient en errance depuis lundi dernier dans ces milliers et ont surpris une dizaine de civils dans leur champ, précisent les sources locales. 3 autres civils ont été également pris en otage et 2 autres ont réussi à s'échapper. La nouvelle société civile congolaise sollicite l'intervention des FARDC en vue de démanteler ces groupes armés. Restons en Ituri où au moins 44 personnes ont été tuées au mois de janvier au cours des attaques des groupes armés dans les territoires de Djougou. Les acteurs de la société civile de cette entité déplorent également l'enlèvement de certains civils, les viols des femmes et les incendies des maisons par des miliciens. Selon eux, ce regain de violence est observé après environ 6 mois d'accalmie dans ce territoire. Ils demandent au gouvernement d'intensifier les opérations militaires en vue de consolider la paix. Les détails avec Isaac Remoyopé.
Au moins 17 attaques et incursions des groupes armés ont été enregistrées depuis le 1er janvier de l'année en cours dans les différentes localités dans les territoires des Djougou. Les bilans avancés par des sources concordantes et confirmés par des services de sécurité et de 20 civils tués, 10 de blessés et au moins 10 personnes enlevées, dont 7 ont été relâchées. 4 femmes ont été violées et au moins 6 maisons incendiées, ajoutent les mêmes sources. Parmi les belligérants, on signale les meurtres de 23 miliciens pendant les affrontements entre Kodeko et Zaïre dans la localité minière de Niassi, à environ 100 km. Au nord de Bounia. Un militaire des FARDC a aussi péri pendant les combats contre les groupes armés. 16 civiques se sont également livrés au pillage des biens de la population pendant leur incursion dans la zone. Les leaders communautaires locaux s'inquiètent de la résurgence des violences de ces milices au cours de ce mois de janvier en violation des actes d'engagement unilatéraux signés en juin à Arou. Ils lancent un appel au gouvernement de consolider la paix dans les territoires des Djougou pour permettre à plus d'un million de déplacés disséminés dans les différents sites de regagner leur village d'origine. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
La République démocratique du Congo joue la Guinée demain vendredi dans le cadre des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Une rencontre qui déchaîne les passions chez les Loufois. Si la plupart croient dur comme fer à la victoire des Léopards, d'autres jouent à la prudence tout en espérant voir la RDC briser les signes indiens qui la poursuit, disent les Loufois depuis des lustres sur l'échiquier africain. Quels sont alors les enjeux de ce match? Tentative de réponse avec Jean Gandou.
Ce match est qualifié par certains Louchois comme celui de tous les dangers et de tous les enjeux. De tous les dangers parce qu'il est à élimination directe. Après un parcours élogieux depuis le début de la compétition, les Léopards ne doivent pas baisser les bras et se laisser éliminer à ce stade, ce qui sera une véritable déception pour les Congolais qui croient en la renaissance de cette équipe nationale. Ce match est aussi de tous les enjeux car la RDC est à 2 doigts de la finale qu'elle n'a pas jouée depuis plusieurs décennies. Et pour y parvenir, de nombreux Louchois estiment que la clé de la victoire des Léopards se trouve bel et bien entre les mains du sélectionneur qui doit monter un 11 national capable de s'effrayer ainsi un chemin pour le tour suivant. Pour d'autres, les Léopards doivent aborder cette rencontre sans s'appuyer sur les statistiques qui montrent que la RDC a une ascendance sur les Guinéens car cette CAN est pleine de surprises où les favoris plient bagages les uns après les autres. Ils demandent donc aux Léopards de mouiller le maillot car les Guinéens ne sont pas arrivés à ce stade de compétition par l'effet du hasard, d'où, d'après eux, la prudence doit être de mise et les joueurs doivent se sublimer et faire mieux que lors des matchs précédents en marquant des buts. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Validation hier mercredi à Kinshasa de l'étude sur la diagnostic de la capacité évaluative de la RDC. Initiée par le ministère du Plan en collaboration avec l'UNICEF, cette étude vise à doter la RDC d'un plan d'action pour l'institutionnalisation de la fonction de l'évaluation en RDC. D'après les experts du ministère du Plan, du Parlement et des structures spécialisées, l'évaluation des politiques publiques est une pratique importante dans une gestion axée sur les résultats pour promouvoir le développement de la RDC. Les détails avec Michel Kifindangoy.
Tout d'abord, il faut noter que plusieurs pays développés ayant adopté une gestion axée sur les résultats ont fait de l'évaluation de programmes publics une fonction obligatoire et institutionnalisée. C'est le cas du Canada et du Maroc. D'où la nécessité pour la RDC d'institutionnaliser la culture évaluative afin d'améliorer sa gouvernance publique, explique le professeur Ahmed Benchek, expert et consultant UNICEF RDC.
Il y a trois composantes essentielles. La première, c'est un état des lieux de la fonction de l'évaluation au Congo. Et une deuxième, c'est l'institutionnalisation de la fonction de l'évaluation au Congo. Et troisième axe, c'est une stratégie de renforcement de capacités évaluatives. Ce qui va changer, c'est que la méthode de gérer et de concevoir les politiques et les programmes, elle est tout à fait différente quand on s'intègre dans une démarche de culture évaluative. Il y a beaucoup de rigueur. Et surtout, l'élément central dans cette démarche-là, c'est la question des changements. On va commencer à s'intéresser à la performance des programmes.
Parmi les préalables pour l'institutionnalisation de la culture d'évaluation, il y a le vote des lois adaptées à la promotion de la culture évaluative, mais aussi la formation des gestionnaires parlementaires et universitaires congolais à l'évaluation des programmes publics.
Retour au Nord Kivu, où une cinquantaine de femmes venues de Masisi, Niragongo, réfléchissent à Goma sur le processus de paix. C'est au cours d'un atelier de deux jours sur la restitution des forums provinciaux tenus dans cinq provinces de l'Est de la RDC qui sont en proie au conflit armé. C'est notamment les provinces du Nord et Sud Kivu, du Maniema, de l'Ituri, de Tanganyika et de Maïndombe. Un cahier de charge sera élaboré pour demander aux autorités de prendre des mesures de leur protection, mais aussi leur implication. Bernardine Diambou nous en dit plus.
Outre la restitution des forums provinciaux, la coordinatrice de la plateforme Sauti la Mama Mkongomani dit pouvoir planifier les actions qui vont suivre après cette restitution. La plateforme Sauti la Mama Mkongomani pense qu'il y a des avancées significatives dans leur plaidoyer, bien que beaucoup reste à faire. Nelly Lumbulumbu.
Quand même, il y a une avancée, ça il faut le reconnaître. Contrairement aux années passées, aujourd'hui nous avons vu avec le président de la République qui est champion de la masculinité positive, nous avons vu qu'il y a eu plusieurs femmes qui ont été, par exemple, ministres donc, au sein du gouvernement national, mais aussi la promotion, par exemple, de droits, même la mise en place du Fonarev, qui est le fonds de réparation des victimes de conflits. Ça, c'est déjà des choses que nous avions demandé longtemps. Aujourd'hui, il y a plusieurs avancées, mais il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire.
Cette plateforme demande aux autorités d'être plus attentives aux questions que soulèvent les femmes. À noter que cet atelier de deux jours a été organisé par la plateforme Sauti la Mama Mkongomani, en consortium avec le collectif des associations féminines CAFED, financé par l'ONU Femmes à travers CORDED. Goma, Bernardine Diambou, Radio Kapi.
L'Organisation internationale des migrations, OIM, a procédé hier mercredi à la remise officielle de quatre bâtiments nouvellement construits et devant abriter les services de la police, des mines et hydrocarbures locales à Kavumu, Nzibira au sud Kivu, ainsi qu'à Mangorizipa et Itebero au nord Kivu. Ces nouveaux bâtiments vont accueillir les 237 policiers des mines, dont 15 femmes qui ont fini en 2023 une formation spécialisée en police des mines aux écoles de police Gilles Moké et Mugunga. Rachel Kessembangou pour plus de détails.
La dotation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la troisième phase du projet de police de mines. Le projet est appuyé par le gouvernement des États-Unis pour soutenir les efforts des autorités congolaises dans la lutte contre l'exploitation illégale des ressources minières dans l'est de la RDC d'une part et la protection des femmes et des enfants dans les sites miniers d'autre part. Ces bâtiments sont également équipés en mobilier, en matériel de bureau, dans des kits informatiques, des motos pour faciliter la mobilité des policiers et une station radio équipée en kit solaire pour offrir des meilleures conditions de travail aux unités de police déployées dans ces entités afin de renforcer la lutte contre les activités minières illégales. Parallèlement aux quatre nouveaux bâtiments des escadrons de la police, des sources d'approvisionnement en eau potable ont été mises en place pour desservir la police et les populations environnantes qui s'approvisionnaient autrefois dans des sources d'eau non protégées. Cela est possible grâce au financement du gouvernement des États-Unis à travers le bureau INL du département d'État américain. Bukavu, Rachel Kessé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Dans son discours sur l'état de la nation cette semaine, le président du Libéria affirme avoir hérité d'une économie en très mauvais état. Joseph Nyuma Boakai, 79 ans, qui a battu l'ex-footballeur Jean-Georges Weah lors du second tour de l'élection présidentielle l'année dernière, estime qu'il y a moins d'argent et qu'il devrait y en avoir dans les caisses de l'État. Les États membres de l'Union européenne s'apprêtent à lancer une mission navale en mer Rouge d'ici à la mi-février afin de protéger les navires des attaques des militants houthis du Yémen. Les territoires du Yémen contrôlés par les houthis sont devenus un point chaud de l'agitation maritime avec des attaques visant les navires perçus comme étant associés à Israël.
L'invité.
L'invité de ce journal est le professeur de droit et député national Gary Sakata. Il parle de l'incompatibilité des fonctions occupées actuellement par les nouveaux députés élus, et ce alors que le contentieux électoral n'est pas encore vidé au niveau de la Cour constitutionnelle. Le cas de l'actuel Premier ministre et de certains gouverneurs de province qui continuent à exercer leurs fonctions actuelles en dépit de l'installation de la nouvelle Chambre basse avec déjà un bureau provisoire. Le professeur de droit et député national Gary Sakata répond aux questions de Michel Kifindangoy.
Professeur Gary Sakata, bonjour.
Bonjour, Michel Kifinda.
Quels sont les enjeux politiques autour de l'installation de la nouvelle Assemblée nationale ?
Alors moi, je suggère que la nouvelle Assemblée nationale telle que constituée puisse axer son action vers les lois à caractère socio-économique, donc celles qui ont un lien avec la fiscalité, le meilleur climat des affaires, mais également un lien avec la réforme de la justice, que l'on puisse également axer l'activité parlementaire sur le contrôle. Ce contrôle ne doit pas être un contrôle de pacotille, ça doit être un contrôle de profondeur pour tenter de recadrer l'action de l'exécutif.
Plusieurs députés élus se trouvent dans une situation d'incompatibilité par rapport aux fonctions qu'ils occupent actuellement, notamment le Premier ministre en fonction, le président du Sénat et plusieurs autres membres du gouvernement. Comment ça va se passer pour que leur mandat soit réellement validé?
Alors, les incompatibilités auxquelles vous faites allusion, elles ne vont normalement courir qu'à dater du moment où le bureau provisoire va procéder à la validation des mandats. Parce que selon notre constitution ainsi que le règlement intérieur qui régit l'Assemblée nationale, les mandats du député national commencent à dater de la validation de mandat jusqu'à l'installation du bureau provisoire. En d'autres termes, si l'on doit rester vraiment sur le plan de droit, sur le plan juridique, l'on peut donc considérer qu'à ce jour, et la République démocratique du Congo n'a aucun député parce que nous sommes dans l'entre-fin de mandat de l'ancienne législature. Et en attendant la validation, l'on peut donc considérer qu'il n'y a donc pas de personnes qui ont le statut de député actuellement. Il faut donc attendre la validation de mandat. Et dès lors que le mandat sera validé, le Premier ministre, le président du Sénat, tous les ministres, le gouverneur auront 8 jours pour choisir entre le mandat des députés pour lesquels ils ont été élus ou rester dans leurs fonctions actuelles. 8 jours pour écrire au président du bureau provisoire en disant qu'ils ont opté pour le mandat des députés, d'une part. D'autre part, qu'ils n'ont pas opté pour le mandat des députés et qu'ils restent dans leurs fonctions d'avant. Ou troisièmement, certains peuvent même se taire. Alors, lorsque vous ne vous prononcez pas, l'on considère donc que vous avez renoncé au mandat de député.
Des ministres actuellement élus et qui vont opter pour rester au gouvernement auront-ils la possibilité de regagner leur siège à l'Assemblée nationale s'ils ne sont pas reconduits au prochain gouvernement?
Alors, un ministre qui préfère rester à son poste dans l'exécutif, donc en tant que ministre, en renonçant à celui de député national dans le délai tel que prescrit, perd définitivement son mandat de député et ne pourra plus jamais y revenir, du moins pour cette législature. Donc il perd définitivement, ça ressemble à une forme de démission.
L'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale est-elle conditionnée par la finalisation du traitement du contentieux électoral au niveau de la Cour constitutionnelle?
Alors, l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale n'a pas de lien avec le traitement du contentieux au niveau de la Cour constitutionnelle parce que les députés revêtent du statut, quoique provisoire bien entendu, de mandat des députés dès lors que celui-ci a été validé. Et dès lors, il peut donc poser tous les actes qui sont reconnus à tout député, nonobstant le fait que le contentieux continuerait au niveau de la Cour constitutionnelle. Et par voie de conséquence, on peut donc élire sans attendre le bureau définitif.
Faudrait-il attendre la publication des résultats définitifs des élections législatives nationales pour procéder à la composition et à la publication du prochain gouvernement?
À ce propos, il faudrait d'abord préciser que la nouvelle loi électorale a innové sur cette question et la Cour constitutionnelle, en ce qui concerne le traitement des contentieux, ne dispose que de 2 mois. À défaut de rendre son arrêt dans ces délais, c'est la proclamation telle qu'effectuée par la CENI sera considérée comme étant définitive. Mais quoi qu'il en soit, j'opinerai dans le sens que même si la Cour constitutionnelle ne vide pas tous les contentieux, parce que son rôle n'est pas forcément de changer fondamentalement la majorité qui est déjà connue, et puisque le gouvernement se forme sur la base de la majorité, je pense qu'on pourrait nommer un gouvernement, nonobstant le fait que la Cour constitutionnelle n'aurait pas encore fini le traitement de ces contentieux.
Professeur Gary Sakata, je vous remercie.
Michel Kifina et Radio Okapi, je vous remercie.
Et c'était notre invité, le professeur de droit et député national Gary Sakata, qui répondait aux questions de Michel Kifina Ngoy. C'est la fin de ce journal qui a été supervisé par Pelé Kipela Mondo et coordonné par Élisée Tikota. La mise en onde a été assurée par Jean-Claude Tiala. Infiniment merci à vous de l'avoir écouté.